Théâtre, livre, littérature, peinture, expo, culture, transversale. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Transversare et aujourd'hui nous vous proposons d'écouter le troisième volet de notre série d'émissions consacrée à la musique et plus particulièrement à l'actualité musicale de l'ENS. Après la chorale de l'école, après les jeunes groupes prometteurs qu'on y trouve, voici maintenant l'interview d'un groupe invité par le BDE dans le cadre du festival de printemps 2010 de l'ENS, j'ai nommé Carpath. Le 3 avril, ce quatuor parisien nous a accordé un entretien dans un des modules de l'ENS Sciences, transformé en loge pour l'occasion. Et ce, quelques heures avant de monter sur scène pour un concert sous les gouttes, mais un concert bouillonnant d'énergie, de rythme et de gaieté que l'on n'est pas prêt d'oublier. On écoute tout de suite Fred et Hervé nous présenter Carpath. Alors bonjour à vous deux, Fred et Hervé du groupe Carpath. Donc dans quelques heures, vous allez monter sur la scène en tant qu'invité star du festival de printemps de l'ENS. Pouvez-vous nous expliquer tout d'abord qui fait quoi dans ce groupe où, on le rappelle, vous êtes quatre en fait?
Il y a Luc. Luc fait de la batterie, c'est le dernier arrivé dans le groupe. Et puis le trio de base qui est maintenant depuis 8 ans dans l'histoire des Carpathes, c'est Hervé qui fait basse contre basse, moi je chante et je fais de la guitare. Et Getz qui fait guitare et chœur.
Et simplement pour les textes, qui est-ce qui s'en occupe?
Moi je m'occupe des textes. C'est pas que je ferme la porte, mais pour l'instant les copains ils sentent pas trop d'écrire.
On vous dit très influencé par notamment le jazz manouche, mais vous semblez aussi vous inscrire dans la chanson à texte, donc qu'elle soit poétique comme dans Léon par exemple, ou un peu plus malicieuse comme dans Mélisande. Comment vous-même vous décririez votre musique?
Déjà le côté de jazz manouche, c'était un truc qu'on avait mis dans des bios au tout début, et c'est des bios qui doivent être gravés dans les disques durs de tous les ordis de tout le monde, parce qu'il y a bien longtemps qu'on fait plus de jazz manouche. Mais c'est parce qu'au départ on a fait beaucoup de chansons dans des petits lieux où on jouait acoustiquement, et donc en arrivant avec la contrebasse d'Hervé et nos deux guitares, on faisait un truc qui était un peu pompe manouche sur lequel on mettait des textes. Et puis après, dès qu'on a commencé à pouvoir être sonorisé, on a élargi quoi. On a fait aussi assez tôt des trucs un peu plus latins, des rumbas ou des chansons, comme tu disais, beaucoup plus à texte, où il n'y a pas forcément une connotation manouche dedans.
Mais par contre, le jazz manouche, c'est pas seulement dans les ordinateurs, c'est aussi dans les chansons. La mouche qui aime le jazz manouche.
C'est une chanson du deuxième album, celle-là, dans le caillou, où à l'époque, on faisait pas mal de trucs comme ça. Alors, on continue de la faire. La mouche, elle a pris une forme plus... plus manouche punk, tu vois, c'est la mouche avec une crête là.
Et ben d'ailleurs punk sans doute parce que, enfin vous l'avez dit au tout début, vous étiez trois, maintenant vous êtes quatre, il y a la batterie qui est arrivée et justement, est-ce que ça change beaucoup votre type de musique? C'est ce qu'on se demandait. Est-ce qu'elle est appelée à être modifiée? Est-ce que vos influences vont changer?
Tu sais, ça c'est des trucs qu'on prémédite pas quoi. Et puis on sait pas. Là on commence à réfléchir à un prochain album et on sait même pas encore dans quelques jours on va aller commencer à bosser les premières chansons. On ne sait pas encore vraiment la couleur que ça va prendre, tu vois, c'est en permanence, on essaie de se renouveler déjà pour nous pas être lassés de ce qu'on propose. Et puis après, le style, la forme que ça prend, tu vois, on va un peu piocher un peu partout sans se mettre de barrière, quoi. Quand on commençait à bosser sur les chansons du dernier album studio Montreuil, au moment des maquettes, on avait déjà des compositions qui prenaient des couleurs un petit peu... comme ça, un petit peu différente, et on mettait dans les maquettes déjà des sons d'ordinateur pour faire comme s'il y avait un batteur. On s'est dit, bah allons-y, on fait l'album avec une batterie, et puis après, on s'est dit aussi pour la scène, bien sûr, les chansons du dernier album, ça serait bien de les faire proche du disque avec de la batterie, mais c'est dommage de ne pas mettre de la batterie sur les anciens. On va pas avoir un batteur qui se barre un morceau sur deux, tu vois. Donc on a rebossé, voilà, on a bossé l'ancien répertoire avec une batterie et c'était vachement intéressant aussi parce que des chansons qu'on jouait depuis des années d'une certaine façon, il fallait qu'on réapprenne à les jouer autrement et c'était bien.
Donc vos chansons, on parlait tout à l'heure de textes et justement ce qui est assez, enfin on s'aperçoit que c'est toujours de vraies histoires, alors souvent des histoires d'amour, des histoires de mort, des histoires de famille, pour reprendre le titre d'une des chansons. Vous mettez en scène des ragots parfois, la rumeur, et avec aussi beaucoup de personnages atypiques, il y a le catcheur, le pilier de comptoir, etc. Et du coup, on se demandait si c'était possible, à résumer, les influences. Est-ce que c'est de la pure imagination? Est-ce que c'est tombé sur un petit fait autour duquel on brode toute une histoire? Est-ce que c'est encore autre chose?
Alors les histoires, ouais, on a eu pendant trois albums des chansons qui étaient assez réalistes, où effectivement on prenait des personnages un peu inventés, ou un peu inspiré de trucs qui nous étaient arrivés, puis qu'on transformait pour la chanson. Après, l'écriture, elle a évolué aussi, comme la musique. Sur le dernier album, sur Montreuil, j'ai une écriture pareille qui inconsciemment est devenue un petit peu plus onirique, comme ça, c'était moins premier degré. Et, du coup, la musique qui en a découlé a aussi été assez différente. Et là, le prochain album, je ne sais pas trop. On s'est dit, avec un tout petit peu de recul, qu'on était attaché à ces personnages un peu forts, tu vois. Ouais, qu'ils sont attachants et puis qu'on a plaisir à jouer en concert. Et du coup, on essaye tout le temps de proposer ce qu'on sait faire, mais de le renouveler un petit peu. Donc,
On s'imaginerait même les voir revenir comme dans un roman parfois. Ouais, Léon, ouais. Par exemple, moi j'aimerais bien savoir ce qui lui arrive à la fin de la chanson quand il est parti, qu'il revient pas.
Un jour, on a monté un spectacle avec Loïc Lantoine, qu'on a joué un seul soir à Paris, au Cabaret Sauvage. Et c'est un spectacle qu'on avait appelé « La véritable histoire de Léon ». Parce que c'est un personnage un peu emblématique, tu vois, des Carpates. Et donc on s'était dit, on va mettre en scène un spectacle où il y aurait de la musique que nous on jouerait sur scène. Et puis Loïc Lantoine qui serait un narrateur, qui viendrait nous faire un peu le lien entre les chansons. Et on avait organisé une playlist, une suite de chansons qui finalement expliquait toute l'histoire de Léon, de son enfance à son adolescence, à sa vie adulte, jusqu'à la fin du spectacle qui se concluait par la chanson Léon, où on reste sur ce suspens, tu vois, on ne sait pas ce qui devient, on sait qu'il quitte ses potes d'enfance du bistrot et il part et plus personne ne sait ce qu'il est devenu.
Parce que moi j'ai l'impression que c'est tout à fait personnel, mais que finalement en fait c'était cette fille, cette femme qu'on ne voit pas, c'était la mort. Du coup j'étais très très triste.
Il y a les deux lectures hein, sur la fin, tu vois.
Vous parlez de spectacle et on sait que vous faites beaucoup de scènes. Qu'est-ce que ça apporte la scène en plus des chansons en studio? Qu'est-ce que ça apporte comme émotion particulière?
En fait, en studio, c'est assez... t'es enfermé, quoi. En studio, c'est un travail de laboratoire qui est vachement sympa et quelquefois, au bout d'un moment, un peu exténuant, en fait. Parce que t'es vraiment enfermé avec des machines à essayer de polir un album, de faire le mieux comme un petit bijou que t'essaies de perfectionner comme ça. Et la scène, c'est l'expérience avec les gens, quoi. À mon sens, je pense que pour l'ensemble du groupe, on aime bien faire c'est chouette de faire un album. Mais après, ce qui est agréable, c'est de se balader. Quand t'es musicien, que t'es jeune, si tu veux faire des concerts, c'est pour aller boire des coups, rencontrer des gens, faire des soirées toutes différentes et puis partager des trucs avec les gens, quoi. En studio, t'es quand même... Tu vois, t'essaies de faire un album qui va... Tu fais comme tu le sens, mais tu vois, t'as quand même certaines contingences, d'essayer que ça sonne, de faire un truc. Là, on peut se permettre de se planter sur un morceau, c'est pas grave, tu vois, c'est dans l'instant. Donc on a pas mal de liberté, c'est ça qui est agréable. Donc c'est, voilà.
Mais au moment de Montreuil, alors j'ai vu, mais étant à Lyon, j'ai pas pu voir en vrai, ni comprendre. Après, vous avez fait une sorte de marathon, j'ai cru comprendre, de 10 concerts. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous pouviez nous en dire plus? Parce que je trouve ça très impressionnant.
Alors là, il y a une époque, on faisait des concerts face à dehors des grandes salles. C'était des espèces de commandos. On avait eu cette idée-là. Et quand on a l'album Montreuil qui est sorti, vu qu'on n'a pas beaucoup de promos, tu vois, qu'on est en autoprod et tout ça, on cherchait des idées. Et je crois que c'est Fred, il a eu cette idée de faire 10 concerts à la suite en 10 heures. Donc on s'est un peu baladé dans Paris. On a pris 10 lieux qui nous plaisaient bien. Et on s'est trimballé comme ça toute la journée en filmant un peu tout ça. Et pour faire une espèce de voilà, c'est une manière de communiquer à notre manière avec à l'huile de coude, quoi. Donc,
vous avez pu voir comment les gens réagissaient différemment dans différents endroits de Paris.
C'était surtout de faire. On avait des potes qui nous suivaient, qui filmaient, et après on voulait remettre ça sur le net et faire un petit buzz sur le net parce que un principe de 10 concerts en 10 heures, finalement, tu te dis c'est faut être fou pour faire ça, quoi. Mais c'est vrai, on en a chié, c'était bien. Et au final, le petit montage vidéo qui aboutit à la fin de ce truc-là, ça s'est un peu vu sur Internet et ça permettait de communiquer gratos.
Voilà. Après, il y a Gonzalez, qui est pas super bon comme mec, il a eu l'idée du coup de faire un concert de piano en 27 heures. Alors que nous, on avait déjà fait ça Ouais, mais à part, il a réussi à battre le record de longueur de piano, il a joué 27 heures. Mais lui, c'était à un seul endroit, avec un médecin qui était à côté. Il a amené tous les médias. Enfin, bon, c'est vraiment du business à son niveau. Nous, on a quand même gardé un côté un peu. Voilà. Enfin, je veux pas critiquer. Hein.
Puisqu'on est justement au niveau des critiques, est-ce que vous auriez des conseils? Parce que ça fait quelque temps que j'ai pas découvert de groupe français. Alors, est-ce que vous auriez des groupes de la scène française qui... C'est vrai qu'il y a tout ça, le NS, tout est à disposition.
Il y en a un qui est à 2 mètres de toi. Les Becs bien zen, les Lyonnais, un groupe magnifique de chansons superbes.
Une petite présentation.
Voilà.
Un groupe lyonnais qui a déjà 5 ans et qui essaye de se développer en France. Alors, on commence à avoir un petit public à Lyon, et voilà, donc à découvrir.
Et quel genre ?
Chanson française à découvrir. D'accord. Parce que plein d'influences, plein de musiciens différents.
Et alors, où est-ce qu'on pourra vous voir ? Puisque vous êtes lyonnais, c'est facile.
Alors, sur Lyon, pour l'instant, il n'y a pas de date. Mmh. Par contre, Paris, on commence à avoir quelques dates. Voilà, on va jouer avec Florent le 9 mai. Puis voilà, à regarder le MySpace.
D'accord, voilà. Bon, on conseille à tous les auditeurs alors. Merci beaucoup.
Merci.
Faut pas se bourrer, c'est Bec bien zen.
Bec bien zen.
La bonne orthographe, sinon sur le net, ils ne vont pas trouver. Bon, un autre groupe qui nous tient à cœur, c'est, on a plein d'amis, hein, parce que dans la chance qu'on a de voyager en faisant l'Asie, qu'on rencontre plein de gens. Il y a les Face à la mer, un groupe de 6 nanas qui sont un super chouette groupe de chansons aussi, 6 filles qui font des très belles chansons. Puis après, bah, voilà, il y a plein d'autres, mais là, c'est bien de parler des.
Une fois, on a fait un concert avec Nicolas Jules.
Ouais, super aussi.
Avec un pote à moi qui fait la batterie, ils sont en duo. Je trouve ça quand même vraiment très 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 bien.
Ce sont de très bonnes idées tout ça. Et, alors moi je voulais juste vous demander autre chose par rapport à ça. C'est quel est votre regard en fait sur la scène française actuelle de chansons françaises ?
Il y a plein de choses. C'est vachement intéressant, c'est effervescent tout ce qui se passe. Il y a... Après tous les groupes sont un peu en résistance et en lutte parce que les lieux pour s'exprimer sont de moins en moins nombreux. Donc nous, ce qu'on a vécu il y a 8 ans, pouvoir prendre la voiture et faire le tour de France et jouer dans plein de bistrots, on pouvait le faire encore parce qu'il y avait des lieux qui ouvraient les portes facilement. Maintenant, c'est un vrai souci de réglementation, de subventions qui sont allouées à ces lieux, qui sont complètement amoindries, si ce n'est complètement sucrées d'une année sur l'autre. Donc c'est difficile pour les groupes. Mais voilà, il y a encore plein de belles choses qui existent, plein de jeunes groupes qui arrivent et qui déchirent. Et, Faut qu'il se serre les coudes, quoi. Et nous, c'est ce qu'on fait, on se serre tous les coudes dans cette grande famille de la chanson. C'est vrai qu'on a la chance d'être en dans cet univers de la chanson où il y a une sorte de vraie fraternité, quoi, vraiment. Ouais, ouais. On s'invite tous les uns les autres. Si ça avance pour l'un, bah, ça va avancer pour tous les autres, quoi. Et donc, on se soutient parce que c'est une période difficile, quoi. C'est la crise, mais dans la musique, ça l'est vraiment aussi, quoi.
Pour ma part, par rapport à ça, je trouve que le fait que l'année dernière, je crois que c'est l'année dernière qu'il est mort, Bachung. Bachung, il est mort l'année dernière. Mano Solo, un pote à nous, en début d'année, il est. En fait, je me disais qu'il n'y a pas de. J'aimerais bien qu'il y ait un chanteur qui arrive et qui déchire, qui soit vraiment au-dessus du lot, comme Gainsbourg quand il est arrivé, ou des mecs comme ça. Je trouve qu'à l'heure actuelle, j'y réfléchissais, je me disais, qui c'est qui est vraiment. Tu vois, qui va vraiment rester dans 20 ans, tu vois. Je trouve qu'on est dans une situation qui est pas si évidente, tu vois. Et quand je vois que des icônes comme Mano ou Bachung sont passées l'arme à gauche. C'est assez.
Si, il y a des mecs, mais qui sont pas autant connus que l'était Mano ou Bachung.
Des jeunes, moi je parle de gens jeunes qui prennent la relève. Hein.
Bah, un mec comme Leprest, comme Loïc Lantoine.
Ouais, mais Leprest, il a quel âge? Il est pas jeune, il a 55 balais.
Ouais, ouais, mais bon. Après, des mecs ouais, de cette puissance médiatique-là.
Mais pas médiatique, moi, je pense que Gainsbourg, il a révolutionné le truc. À chaque fois qu'il a fait un album, c'était incroyable. Et même Bachung, au niveau. Il a vraiment poussé la barre super haut au niveau. Au niveau des arrangements, au niveau des chansons, au niveau de chaque album qui était super conceptuel et tout ça. Et à l'heure actuelle, j'aimerais bien qu'il y ait deux ou trois personnes qui tout d'un coup, qui mettent un gros truc au taquet, même s'il y a plein de groupes que j'aime beaucoup. Hein,
des mecs comme les Têtes ou les Ogres, c'est des mecs qui quand même sur le temps restent, tu vois, qui voilà, sont importants dans la chanson.
Je trouve qu'en fait, les...
C'est des collectifs plus que des personnes.
Ceux que je mettrais à ce niveau-là, c'est vrai que c'est ce que je préfère peut-être dans la démarche, c'est les Ogres de Barbac, qui, dans le dernier spectacle qu'ils proposent depuis un mois, ils proposent trois choses différentes. Il y a un côté acoustique, un côté rock'n'roll et un côté musique électronique. Alors quand on voit un groupe de chansons comme les Ogres de Barbac, qui font de l'électro pendant une heure à la fin du concert, tu te dis, je suis content parce que la démarche, elle est bien, quoi. Ils sont vraiment en constante évolution. Il y a vraiment une recherche de faire évoluer la musique qu'ils font, quoi.
C'est un groupe que les gens connaissent peu finalement. Il faut être un peu branché chansons françaises.
Ils ont fait quand même des. Vraiment, ils sont très connus.
Oui.
Et en plus, ils sont pas dans la démarche médiatique. Donc, peut-être que c'est un groupe emblématique, je pense, à plein de niveaux différents.
Merci beaucoup pour cette interview, plein d'informations. Merci. Et donc, on ira voir tous ces groupes que vous nous avez conseillés. Voilà, et surtout, on ira voir vous, à 20h, sur la pelouse de l'ENS dans le Grand Vent. Merci beaucoup et à bientôt.
Merci.
Alors.
Merci.
Culture, expo, cinéma, théâtre, livre, littérature, musique, peinture, cinéma, expo, culture,
transversale.